Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'un des premiers mots qu'apprennent à prononcer les tout-petits. Ce petit adverbe, c'est « non ». Un véritable refrain entre 2 et 3 ans, à tel point que l'on surnomme cette phase d'opposition « l'âge du non ». Et pourtant, en grandissant, certains d'entre nous semblent perdre cette capacité de dire non et par là même de s'affirmer dans différentes situations. Un parent qui s'invite chez vous, une amie qui vous emprunte une belle somme, un collègue qui vous demande de le soulager d'un ou deux dossiers, alors qu'instinctivement vous ressentez le besoin d'être seul, que vos finances ne sont pas vraiment fameuses et que vous croulez déjà sous le travail, eh bien, impossible de prononcer ces trois petites lettres qui correspondent au fond de votre pensée, à votre véritable envie, à votre désir. Alors pourquoi devient-il difficile de dire non ? De quoi a-t-on peur lorsque nous-mêmes nous nous engageons contre notre volonté ? Comment expliquer que l'on opte pour la soumission et les regrets plutôt que l'affirmation et la satisfaction ? Et une fois que le constat est établi, que la difficulté est identifiée, comment inverser la tendance, réfréner ses craintes, ne pas se sentir obligé, apprendre à se faire plaisir, à se faire respecter, sans renoncer à ses valeurs de solidarité, d'écoute et d'entraide. Des questions, des conseils pour apprendre à dire non, comme chaque jour dans Priorité Santé, c'est tout de suite. Oser dire non, relation interpersonnelle, affirmation de soi, avec notre invité, Dr Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute à Paris, et vous avez signé, Dr Gavard, l'ouvrage « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» publié aux éditions Marabout. Autre regard, nous joindrons au Cameroun le docteur Félicien Tonnet, médecin psychiatre, pédopsychiatre et directeur général adjoint du CHU de Yaoundé. Puis en fin d'émission, on va retrouver une lauréate burkinabée de l'appel à projet Flash, lancé par l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, la NRS. Projet de recherche sur le Covid-19 lancé en avril en direction des pays à ressources limitées. On va donner la parole à Blandine Bila, elle est anthropologue à l'Institut de recherche en sciences de la santé d'Ouagadougou.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Marie-Claude Gavard, je citais tout à l'heure ces différentes situations à l'occasion desquelles dire non peut être délicat, voire même impossible pour certains d'entre nous, le travail, la famille, les amis. Est-ce que pour vous, cette capacité, elle est liée au contexte, à la situation, ou plutôt à la psychologie de la personne, à son parcours ?
Alors, elle est liée à la psychologie de la personne et bien entendu influencée par la situation du présent. C'est souvent une histoire éducative, c'est-à-dire que dans certaines cultures, l'enfant a peu droit à la parole et s'affirmer dans une négation de ce que veut l'autre, c'est considéré comme un manque de respect aux aînés. Et au niveau de la pédagogie, maintenant on sait que l'enfant doit pouvoir exprimer ce qu'il ressent, sinon il y a un refoulement qui peut lui nuire, et on doit l'éduquer de façon à ce qu'il exprime, mais de façon correcte, pour que l'autre ne se sente pas agressé.
Est-ce qu'on pourrait décrire ça comme un trop d'obéissance ?
Le plus souvent, c'est un trop d'obéissance qui est dû à une peur, alors une peur de ne plus être aimé. Alors pour les petits-enfants, ça peut être une peur d'être puni, parce que les parents peuvent être agacés de voir l'opposition. Or, en fait, l'opposition d'un enfant qui a 3 ans, c'est un très bon signe de désir d'autonomie. Alors, bien entendu, il n'est pas question de céder à tous les noms, mais d'écouter et d'expliquer.
Il peut y avoir des personnes très affirmées à la maison, docteur Marie-Claude Gavard, mais complètement soumises au travail. Comment on l'explique ?
Alors, au travail, maintenant que les pervers narcissiques sont repérés comme étant des harceleurs et qu'au travail, on voit qu'il y en a pas mal, c'est-à-dire les chefs qui demandent à leurs meilleurs éléments de travailler encore et encore et encore de façon totalement déraisonnable, et la personne qui a peur de ne pas être reconnue comme compétente, peur de perdre son travail, continue à travailler, à fournir beaucoup plus et va jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out. Et ça, c'est la peur de s'opposer à un chef Quelquefois, il y a des entreprises qui fonctionnent avec ces chefs qui sont très outranciers dans leurs demandes, et ces entreprises en profitent pour faire plus de gains, mais finalement, les bons éléments vont être en burn-out pendant des mois, voire partir. Donc, à terme, ils n'y gagnent pas. Et quelquefois, la personne qui se laisse faire se retrouve en situation infantile comme elle l'était avec un père ou une mère autoritaire. Donc, il y a ça aussi qui joue.
On entend parler, quand on réapprend à dire non, on va dire, d'affirmation de soi. C'est quoi la différence avec l'estime de soi, docteur Gavard ?
Alors, l'estime de soi, c'est voir que bon, nous sommes, comme tous les humains, névrosés légèrement. Nous avons nos qualités, nos défauts, et nous essayons souvent de corriger nos défauts parce que pour nous, c'est un handicap. Donc, avoir l'estime de soi, c'est estimer qu'on est tout de même, même avec ses défauts, quelqu'un de bien. S'affirmer, c'est estimer qu'on a une place, que l'autre a une place et que personne n'a le droit d'empiéter sur nos plates-bandes, comme il ne nous viendrait pas à l'idée d'aller piétiner les plates-bandes de l'autre.
Mais en même temps, des fois, chez certaines personnes, on a une sorte d'impression de volonté, finalement, qu'ils y trouvent une forme de plaisir. Est-ce que c'est faux, cette vision ?
Ah non, c'est tout à fait vrai. Parce que si on veut bien chercher, quelqu'un qui ne respecte pas le territoire de l'autre, c'est quelqu'un qui a besoin d'envahir l'autre, mais le plus souvent, c'est parce qu'il a peur d'être envahi. Et on peut trouver un manque de confiance en soi que cette personne a aussi depuis l'enfance, et donc se défend de ce manque de confiance par une agressivité systématique et un autoritarisme.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la pression sociale au travail, mais on peut dire aussi, parce qu'il y a une notion de culpabilité, il y a certaines situations qui sont vraiment culpabilisantes. On pense forcément à la famille, ne pas décevoir ses parents, ne pas décevoir un frère, une sœur. On parle même d'obligation familiale. On peut dire que dans ces situations, c'est vraiment compliqué de dire non, docteur Gavard.
Oui, mais si l'on dit toujours oui, on perd l'autonomie, on perd sa réalité et on perd son bien-être. L'important, c'est d'exprimer sa position, c'est-à-dire on peut tout à fait rendre service de temps en temps, sachant que si on rend toujours service, on montre à l'autre qu'on a peu d'estime de soi et qu'on est au service de l'autre. Donc l'autre risque d'en profiter. Et en fait, ce n'est pas forcément une démarche altruiste, ça peut être une démarche de peur de ne plus être aimé, le plus souvent c'est ça dans les familles, de ne plus être aimé, d'être jugé égoïste. Il y a une petite plaisanterie que je trouve formidable, celui qui est égoïste, dit-on, c'est celui qui ne pense pas à moi, vous voyez. Et en fait, quand on accuse celui qui est toujours à dire oui, il s'autorise une fois à dire non, qu'il est égoïste, il faut voir qui le dit. En général, c'est quelqu'un qui a envie d'exploiter cette personne qui dit oui, toujours.
En même temps, on parle de devoir filial, obligation familiale, et c'est peut-être encore plus vrai dans certaines cultures, dans certains milieux, il y a quasiment une obligation de dire oui, au risque d'être rejeté de la famille.
Oui, alors, je pense que tout le monde ne dit pas oui. Donc, il faut voir ceux qui arrivent à dire non de temps en temps, comment ils s'y prennent. Donc là, il y a de la modélisation. Et puis, il y a à expliquer les choses. Je ne demande pas mieux de te rendre service. Là, cette fois, ce n'est pas possible. Donc, vraiment dire oui quand c'est possible et non quand ça ne l'est pas. Et à ce moment-là, la personne en face a du respect pour celui qui dit oui, parce que ça fait vraiment plaisir de voir que la personne va rendre service, et non quand elle ne peut pas. Et au démarrage, si elle veut changer d'attitude, de passer du oui systématique au non de temps en temps, il faut expliquer pourquoi. J'aurais bien aimé te rendre service, mais là, je ne peux pas.
Argumenter. Docteur Marie-Claude Gavard, on va poursuivre cet échange avec vous. On va bien sûr donner la parole aux auditeurs de l'émission avec des messages enregistrés et du direct.
Priorité santé sur RFI.
Et notre premier auditeur nous a appelé du Sénégal, de Dakar. Et avec Souleymane, nous sommes docteur Marie-Claude Gavard au cœur du problème.
Bonjour Caroline. Bon, en fait, moi j'ai un sérieux problème pour dire non. Parce qu'en fait, je me dis que quand la personne vient me voir pour me demander de régler un problème, c'est parce que la personne sait en avance que je peux en fait être la solution. Et donc, lui dire non, c'est comme lui fermer les portes ou encore briser ses attentes. Et c'est quelque chose qui me pèse énormément sur la conscience. Je me dis que si moi je refuse, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre pour régler ça en fait à ma place? Et en fait, ça te met dans un dilemme. Souvent, c'est très compliqué pour moi-même parce que parfois, je suis obligé de repousser les choses que j'avais à faire pour moi. Ce n'est pas une situation vraiment facile à gérer ou à vivre.
Alors, peur de décevoir, dilemme, hein, on l'entend dans ces mots, un très gros poids sur les épaules de cet auditeur de Dakar. Docteur Marie-Claude Gavard, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Souleymane ?
Alors déjà, qu'avoir autant d'altruisme, c'est sûrement une très grande qualité. Là, c'est un petit peu trop, certainement. Et je pense que Souleymane peut envisager quelque chose de très simple. Imaginons qu'il soit en voyage. La personne, ne pouvant pas le contacter, serait bien obligée de se tourner soit vers quelqu'un d'autre, soit trouver la solution en elle-même. Parce que mâcher le travail, comme Souleymane semble faire de façon systématique, c'est aussi mettre l'autre dans la situation paradoxale et non voulue d'infériorisation. C'est-à-dire que Souleymane montre à chaque fois qu'il rend service que lui est capable, donc il se met dans une position de supériorité, très gentille, mais supériorité quand même, et il montre que l'autre n'est pas capable de résoudre ses problèmes. Alors, quelquefois, de façon très urgente, bien entendu, on peut aider, mais le faire de façon systématique, c'est ne pas se respecter soi-même et c'est perturber les relations. Et c'est se mettre dans une position de supériorité qui nuit à la communication parce que ça met l'autre dans une position non voulue d'infériorité et quelquefois, on voit que la personne manque de gratitude, c'est bien parce qu'elle s'est sentie inférieure.
En même temps, on entend chez Souleymane qu'il est fier de ses qualités humaines, de ses qualités de disponibilité, et on perçoit qu'il y a une dimension aussi de réputation.
Oui, mais il aura sa réputation, même de sage, si vous voulez, si il ne le fait pas de façon systématique, mais beaucoup plus ciblée à une personne qui sera dans une réelle détresse où il va pouvoir aider, mais tout le monde n'est pas constamment dans une réelle détresse. Narcissiquement, Souleymane doit se faire plaisir à faire plaisir à aider, mais quand on voit que ses besoins ne sont pas forcément respectés par lui-même, là on voit qu'il en fait trop.
Effectivement, puisqu'il dit, docteur Marie-Claude Gavard, qu'il est obligé de reporter certains projets, il met des projets personnels entre parenthèses.
Oui, et peut-être que de repousser des projets lui nuit à lui, mais aussi à d'autres. Donc, il faut qu'il prenne du recul et sûrement qu'il aide moins.
Mais c'est vrai que tout à l'heure, on employait le terme d'égoïste. Très souvent, quand on oppose un refus comme ça et que c'est inattendu, on va dire trivialement, on se prend cette accusation d'égoïsme en pleine figure.
Oui, mais c'est caricatural parce que la personne qui demande qu'on s'occupe d'elle, c'est vraiment quelqu'un, alors à ce moment-là, qui mérite aussi d'être traité d'égoïste.
Mais bon, parce si on est nous pas demande notre jugement, temps, il nous demande notre temps.
Ben voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, ce serait de l'égoïsme à ce moment-là aussi, vous voyez ?
Alors, on va avoir un autre écho. On va partir tout de suite pour le Cameroun avec une auditrice en ligne de Douala. C'est vous, Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Alors, expliquez-nous, Sandrine, dans quelles circonstances est-ce que vous avez vraiment du mal à dire non ?
Bon, pour ce sujet m'interpelle beaucoup parce que je fais partie de ceux qui ne savent pas dire non. Et j'ai vraiment de la peine à dire non aux proches et en famille, surtout financièrement. Aujourd'hui, cette situation commence à devenir un problème pour moi et pour mon foyer, compte tenu des charges qui ont augmenté. Malgré tout, quand je dis non, certaines personnes persistent et vraiment insistent. Et quand je finis par céder, et c'est ça qui me crée vraiment des problèmes, parce qu'à la longue, je finis toujours par céder quand on insiste. Et vraiment, quand je n'ai pas vraiment, il y a des périodes où je n'ai pas et je fais des promesses. Donc, je renvoie la personne à la semaine qui suit ou au mois qui suit. Et aussi, avec les enfants, oui.
Oui, j'allais vous dire, vous parliez d'argent. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des problèmes financiers, justement, à cause de cet argent que vous prêtez ?
Oui, beaucoup, beaucoup. Ça crée ça me crée des manquants dans mes comptes, dans mon budget et ainsi que dans le foyer, parce que le budget qu'on me donne quand je satisfais certains problèmes qui ne sont pas dans mon programme, ça me crée vraiment des problèmes.
Ça déstabilise votre budget. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde pareil, Sandrine, ou est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous arrivez à dire non?
Oui, avec mon mari, on communique bien et on n'a pas vraiment ce souci-là. On communique parfaitement et on n'a pas ce souci-là.
Et vous avez une petite famille avec les enfants, ça se passe comment?
Oui, avec les enfants ont toujours l'habitude de me demander la permission. Et une fois quand je refuse, elle pleure, c'est les larmes totales et je finis toujours par céder. Elles aiment se balader hors du portail, chose que je n'aime pas. Et c'est toujours les larmes et à chaque fois je cède quand elles pleurent.
Et elles ont quel âge ces enfants?
3 ans et 5 ans.
Et 5 ans. En même temps, à cet âge-là, un docteur Marie-Claude Gavard, des enfants de 3 et 5 ans, c'est normal, là, à cet âge-là, qu'il y ait cette difficulté à entendre le nom, hein, ça fait partie de l'éducation.
Ah, tout à fait. Et alors, Sandrine, vous voyez, ce que vous êtes en train de montrer à vos enfants, lorsque vous cédez, c'est que votre parole n'est pas une parole de vérité. Parce que si vous dites à vos enfants, vous ne sortez pas parce que c'est dangereux. Bon, il y a de la circulation, je ne sais pas, bon, c'est dangereux. Et qu'elles se mettent à pleurer et que finalement vous cédez, il y a deux choses. Ou ça veut dire que vous avez menti, qu'il n'y avait pas de danger, ou que vous vous moquez qu'il y ait un éventuel accident. C'est-à-dire que là, c'est totalement contre-productif. Et vous avez intérêt, lorsque vous dites non, de dire aux enfants, écoutez, je vous ai dit que c'était dangereux, par exemple, et donc non. Et puis, il y a quelque chose que les enfants entendent très très bien, c'est dire point. Je vous ai dit, donc ce n'est pas la peine d'insister. Et si les enfants pleurent, se mettent à trépigner, se roulent par terre, vous très tranquillement, vous dites, vous savez, je vous ai expliqué et donc je ne changerai pas d'avis. Et il est fondamental de ne pas du tout changer d'avis parce que les enfants vont se sentir en sécurité. Maman a dit quelque chose et elle s'y tient. D'abord, elle nous aime et ce qu'elle dit, c'est vrai. Et les enfants, après, dès que vous aurez dit, j'ai dit non, point, les enfants, très tranquillement, vont dire « Ah bon, ben, d'accord, ils vont respecter les limites. » Par contre, si vous continuez à céder, les enfants vont pleurer, alors d'abord 5 minutes, ensuite ils vont essayer 10 minutes, un quart d'heure, et même au bout d'une demi-heure, vous allez céder. C'est-à-dire que vous rentrez dans un cercle vicieux d'enfants qui vont être extrêmement pénibles avec vous et avec les autres. Voyez ? Alors que quand on dit non très gentiment et fermement, l'enfant apprend que dans la vie, même en pleurant, en criant, ça ne va pas changer la décision. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est sécurisant pour l'enfant. Vous voyez ?
Ça fait partie de l'éducation. Oui. Alors, autre chose, hein, quand toutes ces personnes viennent emprunter de l'argent à Sandrine, docteur Marie-Claude Gava, là, on ne parle pas de générosité.
Non, là, c'est de la faiblesse. Et ces personnes, vous voyez, ce qui n'est pas très agréable à entendre dans votre situation, c'est que ces personnes savent que vous n'arrivez pas à dire non et elles vont en profiter.
Et on peut dire que c'est un abus.
C'est un abus. Ben là, c'est un véritable abus. Et ces personnes, si vous voulez, pourraient se débrouiller sans vous, bien entendu, parce que lorsque vous n'avez pas l'argent, ben vous n'avez pas l'argent. Les gens se débrouilleraient autrement. Et vous voyez ce que vous dites, et qui est vraiment très, très pertinent, vous dites, avec mon mari, j'ai une bonne communication. C'est-à-dire, vous dites oui quand c'est oui, vous dites non quand c'est non. Donc, vous avez une mauvaise communication avec les autres, et ça, vous l'entendez. Et ça, ce n'est pas si difficile à rétablir, si vous voulez. En expliquant, là, ce mois-ci, je n'ai pas les moyens. De plus, vous avez pris l'habitude de me demander, mais maintenant, je ne peux plus. Donc, soit vous vous organisez pour gagner plus d'argent, soit vous demandez à quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne peux pas. Et je ne peux pas mettre ma vie en péril parce que vous avez un souci. Exceptionnellement, je peux vous aider, mais il faut que ce soit de l'ordre de l'exceptionnel. Vous voyez ? Et là, Sandrine, vous avez peur qu'on ne vous aime plus. Vous avez peur que la famille vous tourne le dos. Mais si vous étiez richissime, alors, bon, eux demanderaient, puis il y aurait plein d'amis qui viendraient. Vous auriez beaucoup plus d'amis qui viendraient vous demander de l'argent. Là, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas le droit de mettre votre famille en danger. Parce que votre mari, puisque vous dites que vous, lui, il n'est pas forcément d'accord et vous continuez à donner, votre mari ne travaille pas pour les autres. Vous ne travaillez pas pour les autres. Vous travaillez pour votre mari et vos enfants. Et vous risquez de perdre votre mari. vous risquez de parasiter toute votre vie. Donc, vous avez tout intérêt à prendre cette décision en expliquant quand je pourrais éventuellement, rarement, je pourrais vous rendre ce service. Et sinon, eh bien, il faut vous organiser autrement. Vous voyez ? Et cette fermeté est absolument fondamentale.
Sandrine, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, ça m'intéresse beaucoup et je vais me mettre en pratique. Mais ce qui me dérange aussi, c'est ce sentiment de culpabilité et de tristesse que je ressens de fois quand je ne parviens pas vraiment à venir en aide à certaines personnes. Je sais pas pourquoi ce sentiment. Et pourtant, parfois, au fond, je sais que c'était pas une urgence. J'ai toujours l'impression de vouloir toujours aider, même si ce n'est pas une urgence, quand on insiste et réinsiste. Je ne sais pas pourquoi ce sentiment de culpabilité quand je ne parviens pas à le faire.
En même temps, si vous essayez d'appliquer ce que vient de vous dire le docteur Gavard, peut-être que ce sentiment partira. N'hésitez pas à nous raconter comment ça s'est passé quand vous aurez trouvé en vous les ressources et la force de dire non. On vous remercie énormément, Sandrine, pour ce témoignage. Excellente journée à Douala. Et on va rester au Cameroun. Cette fois, Yaoundé avec Ludovic. On écoute tout de suite le message qu'il nous a laissé.
Bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Priorité Santé. Moi, je ne me force pas pour dire non ou via... à un service demandé. Je n'ai même pas peur. Si je ne peux pas, où je peux. Si je veux ou je ne veux pas. C'est à moi de décider d'aider ou de ne pas aider. Donc, je ne mâche pas mes mots s'il s'agit de dire non. Et je ne cherche pas aussi à acquérir une bonne manière de dire non. Quand je ne veux pas, je ne veux pas. Je dis clairement, je ne mâche pas mes mots. Merci.
Dire non naturel hein, chez Ludovic, il ne tourne pas autour du pot. Docteur Marie-Claude Gavard, on l'entend dans sa voix. En même temps, il explique sans agressivité.
Alors, quand il dit qu'il ne mâche pas ses mots, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas de l'agressivité tout de même. En tout état de cause, là, on voit qu'il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il n'est pas dans cette quête affective et dans cette culpabilité. Hein, et d'ailleurs, quand on culpabilise de dire non, on pourrait culpabiliser de dire toujours oui, ce serait une meilleure culpabilité. Et donc, Ludovic, lorsqu'il dit qu'il peut dire non, c'est qu'il est rassuré en lui-même. Il a une estime de lui, une confiance en lui, qui lui permet de ne pas être en quête de l'approbation constante des autres. Alors, puisqu'il lui parle de ne pas mâcher ses mots, peut-être qu'il peut avoir une tournure de phrase en disant « je regrette, mais ce ne sera pas possible ». Vous voyez, mais peut-être une certaine rondeur qui, au niveau de la communication, serait meilleure pour lui. Cela étant dit, il n'a pas l'air de se plaindre.
Il n'a pas l'air de se plaindre. En tout cas, on entend chez Robineau, c'est un auditeur qui nous a laissé un message sur Facebook, il est à Lomé au Togo. Lui, il évoque la tristesse. Il dit « ça me fait de la peine de dire non. Tous ceux qui viennent vers moi voient leur souhait accompli. Mais en retour, quand moi, je demande quelque chose, quand je réclame mon dû, ça devient une dispute entre nous. » Alors là, on voit que c'est pas le partage, c'est pas l'échange, c'est du sens unique.
Tout à fait. Et vous voyez, il est considéré comme une poire, là. Hein, lui, il faudra toujours aller le parasiter. Donc, c'est une situation extrêmement pénible.
Et il faut réagir.
Ah oui. Et là, c'est beaucoup plus facile de réagir quand il voit à quel point ce n'est pas bilatéral.
Là, il a déjà conscience qu'il y a un problème. Alors, autre approche, oui. Autre réflexion sur cette capacité de dire non. Accepter aussi le refus de l'autre, c'est important. Accepter de s'entendre dire non avec Laurie en ligne d'Haïti. On écoute Laurie tout de suite.
J'ai un ami du quartier à qui 7 ans de cela, j'ai rendu un service. Il ne travaillait pas et je l'ai référé à quelqu'un qui l'a embauché. Et quelques années plus tard, je l'ai croisé. Et je lui ai demandé de me rendre au service. Il m'a dit qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas disposé en ce moment à être dérangé. Donc, je lui ai reproché son attitude, mais il m'a souri, il m'a dit, si je peux attendre 2 ou 3 jours, pas de problème, mais pour le moment, il ne peut pas. Donc, je me suis senti un peu vexé, je suis rentré chez moi. Comme la nuit apporte conseil, le soir dans mon lit, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, mais il n'a rien fait de mauvais. Il a été honnête et sincère envers moi en me disant qu'il ne peut pas. Donc, il ne voulait pas être en désaccord avec son bien-être, avec son état d'âme, ses émotions, en me disant oui et ne pas tenir promesse, alors que son non est sincère. Donc, parfois, il faut accepter ce non comme preuve de courage, comme preuve de franchise, comme preuve de sincérité. Et parfois aussi, il faut faire preuve d'un peu d'égoïsme sans être méchant et malhonnête et Il ne faut pas surtout aussi chercher une occasion pour se venger ou refuser un service à quelqu'un qui le mérite. Donc, ce nom doit être l'expression d'une âme sincère, une expression venue de son fort intérieur. Et avant tout, c'est la réponse de notre bien-être et de notre tranquillité. Merci.
Ben c'est à vous qu'on dit merci, hein, Laurie, pour ce témoignage plein de philosophie. Docteur Marie-Claude Gavard, savoir accepter le refus de l'autre, c'est vraiment important.
Oui, et là, vous voyez, Laurie a failli interpréter la réaction de son ami de façon négative. Or, en fait, peut-être que l'ami n'a pas suffisamment expliqué. Vous voyez, après, il a dit dans 2-3 jours. Mais peut-être qu'il a dit brutalement non, parce que Laurie dit, mais peut-être que au niveau de son bien-être, ce n'était pas possible. Or, là, il ne s'agit pas de bien-être. C'est quelqu'un qui dit « je ne peux pas te rendre ce service tout de suite, mais dans 2 ou 3 jours ». C'est-à-dire, le service va être rendu. Maintenant, si on demande un service et qu'on pense qu'en claquant des doigts, l'autre va se mettre au garde-à-vous et va le rendre tout de suite, là, on n'est pas dans la réalité, parce que chacun a sa vie et ses occupations. Heureusement, Laurie a bien réfléchi et il a vu qu'en fait, il a rendu service, un ami lui rend service, c'est-à-dire que là, en toute amitié et en toute humanité, les choses se passent bien, la communication est bonne.
Et ce qu'on entend aussi, et on l'entend plutôt rarement, c'est que Laurie s'est donné le temps de la réflexion et il explique comment c'est venu la nuit porte-conseil.
Oui, mais en fait, il dit bien qu'il a été vexé. Et vexé, c'est le manque de confiance en soi. Immédiatement, c'est « ah là là, je ne vaux rien », c'est-à-dire que l'autre me méprise, il ne veut pas m'aider, etc. On est vexé. Or, souvent, on a tort. On est dans l'interprétation négative de ce qui est en train de se passer. Et lui, en prenant du recul, surtout en ayant entendu que son ami allait lui rendre ce service, là, il a pu raisonner beaucoup plus sainement.
Alors on va l'entendre, c'est beaucoup plus compliqué pour Mahamat, il appelle de N'Djamena du Tchad et il exprime ainsi son incapacité à dire non, pour lui, c'est ni plus ni moins une maladie.
Bonjour Caroline, je m'appelle Mahamat, je ne savais pas dire non en rendant service aux autres, parce que si je refuse, peut-être les autres me prennent d'un égoïste, ou tout simplement en mettant à la tête, je leur dois un service un jour à l'autre. Je ne me souviens pas. Quand est-ce que ça a commencé? Sinon, j'ai voulu refuser maintes fois et du coup, je n'arrive pas à le faire. Ça a devenu comme une maladie pour moi et c'est un frein à mon développement personnel.
Alors, on entend donc ce terme de maladie, égoïste, certains le traitent d'égoïste, Mahamat, adjectif très négatif, et il pose cette question très importante, docteur Marie-Claude Gavard, quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que justement, quand on comprend la source de cette incapacité à dire non, ça permet de s'en débarrasser.
Ah oui, 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 c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, quand Mahamat dit qu'il ne se souvient pas, ça peut en principe dire que ça a commencé extrêmement tôt dans sa petite enfance. C'est-à-dire qu'on a chacun une place dans la famille. Et peut-être que lui, il a été considéré comme celui qui devait rendre service. Il a été éduqué comme ça. Que ce soit au niveau des parents, le devoir de respect, parce qu'on peut confondre le respecter et rendre toujours service, ce qui n'est pas du tout la même chose. Peut-être qu'il est l'aîné d'une fratrie où il a toujours fallu qu'il s'occupe des petits frères et sœurs. Peut-être qu'il avait des grands frères et sœurs qui ont toujours voulu qu'il rende des services, etc. Donc oui, ça démarre dans l'enfance. Maintenant, lorsqu'il parle de maladie, alors non, ce n'est pas une maladie. On peut dire que c'est notre névrose, c'est-à-dire notre petit dysfonctionnement ou nos plus gros dysfonctionnements qu'on a tous. Donc ce n'est pas une maladie. Maintenant, il va être très important pour Mahamat de faire des tests. C'est-à-dire, une personne qui dit toujours oui, l'extérieur estime qu'il n'a plus le droit de dire non. Or, là, la prochaine fois qu'on lui demande quelque chose, il peut dire « je suis vraiment désolé, j'aurais aimé le faire, je ne peux pas, je suis trop occupé ou je ne peux pas ». Et il s'arrête là, et on va le traiter d'égoïste, etc. Et il pourra le rajouter « si à un autre moment, j'ai une disponibilité plus tard, pourquoi pas, mais pas pour cette chose-là. Là, tu me demandes maintenant, c'est absolument impossible. » Voilà. Et petit à petit, dans l'esprit des autres, il ne va plus être la personne parasitable tout le temps. Et à ce moment-là, les autres vont commencer à avoir du respect pour lui, parce qu'un oui sera un vrai oui, et ce ne sera pas de la soumission. Et son non sera accepté parce qu'on dira, bah oui, il a sa vie, et là, cette fois, il ne peut pas. Mais c'est quelqu'un de très sympa, et on sait que ultérieurement, s'il peut, il nous dira oui. C'est-à-dire que là, en ce moment, Mahamat ne doit plus être tellement respecté, parce qu'il peut être parasité n'importe quand, et lui, il en est malheureux. Et quand il demande si c'est un frein à son développement personnel, alors là, je dis un très grand oui. Parce qu'effectivement, ça le déprime, hein, il est mal dans sa peau, il a une communication aux autres qui est douloureuse, il voit qu'il est parasité, ce qui nuit à la communication, et à s'occuper des autres, il n'a pas le temps de s'occuper de lui, et de plus, il se ressent faible. Et donc, au niveau narcissique, au niveau de l'image qu'il a de lui, ça ne doit pas être très réjouissant. Donc, moi, je lui conseille vivement de faire ces petits exercices et de dire que si l'autre tourne le dos, a priori, il ne va pas tourner le dos longtemps.
Et changer d'image progressivement, on l'a compris. Un autre regard sur notre question du jour. Apprendre à dire non, on rejoint tout de suite le Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver en ligne, docteur Félicien Tonnet, bonjour.
Bonjour, bonjour RFI.
Vous êtes médecin psychiatre des hôpitaux, directeur général adjoint du CHU de Yaoundé. On a entendu tous ces enregistrements, tous ces témoignages d'auditeurs, avec beaucoup d'entre eux qui disent que c'est difficile de dire non. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez lors de vos consultations, docteur Tonnet?
Alors, ce que je constate pendant mes consultations, c'est pas un motif de consultation, difficulté à dire non, mais ils viennent parce qu'ils ont des problèmes existentiels. Et quand on les accompagne au cours de leur psychothérapie, on sent qu'ils ont au cœur du problème, de leur vécu, une grosse difficulté à dire non, et qu'ils se retrouvent dans une forme d'altruisme qu'on peut rapprocher à la culture communautaire d'Afrique. Des Africains, mais un altruisme qui parfois ne va pas dans les deux sens. C'est-à-dire que dans le processus communautaire, on donnait et on recevait, mais ils souffrent souvent d'être comme des vaches à lait dans les sociétés et culpabilisant de ne pas pouvoir satisfaire toutes les exigences. Alors, généralement, ils vont venir avec une souffrance liée à la culpabilité de n'avoir pas pu satisfaire, mais souvent liée aussi à la pénibilité de trouver les moyens économiques pour faire face aux exigences. Nous retrouvons souvent chez eux des souffrances dépressives, certes, mais comme nous sommes psychiatres d'enfants, nous avons souvent retrouvé chez ces adultes qui n'ont pas pu être pris en charge très tôt, certaines souffrances précoces qu'on aurait pu retrouver dans la petite enfance, parce que se dire oui à tout prix pour trouver un consensus, dire oui à tout prix pour paraître altruiste, pour donner cette gentillesse de façade, pour donner cette serviabilité de façade, se dire oui à tout prix pour paraître agréable aux yeux des autres, a parfois aussi été une contrariété précoce lorsque l'enfant apprenant à dire non a souvent été contrarié très tôt. Autour de 2 ans ou 3 ans, par certains parents qui ont mal vécu ce nom de l'enfant, qui était pourtant une forme d'affirmation de soi. Les Africains, nous n'avons pas souvent pris en charge les souffrances psychologiques tôt. Nous voyons tard des adultes qui présentent des névroses, qui présentent des problèmes compulsifs avec des formations, ce qu'on appelle des formations réactionnelles. Ils essayent de paraître le contraire de ce qu'ils veulent vivre. Et au moment où ils doivent dire non, ils disent oui et ils en souffrent.
Alors, on a un auditeur qui s'appelle Blessing, qui nous a écrit, docteur Félicien Tonnet, un message qui reprend un peu le fond de ce que vous nous dites sur la page Facebook de l'émission. Il nous dit « Savoir dire non, c'est un signe de maturité avec cette dimension culturelle. Hein. » Il écrit « En Afrique, le cœur dit non ». Mais on fait semblant par peur d'être jugé. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
C'est très juste. C'est très juste parce que le poids du regard communautaire pèse sur l'individu. Le cœur, la personne, les Africains sont très structurés sur le plan psychologique d'ailleurs. Nous pensons qu'avant la médecine occidentale, il y avait une forme de prise en charge psychologique de l'homme vers la maturation. Maintenant, c'est mature, vivre dans un environnement où parfois une seule personne est à la tête d'une charge familiale, mm-hmm. un seul qui a réussi dans une communauté se sent obligé de rendre à ceux des autres qui n'ont pas réussi, au-delà de, même de la vie communautaire, finalement, c'est comme si on culpabiliserait d'avoir réussi seul. À ce moment, pour garder sa place dans la communauté, on négocie, on séduit, on essaye de donner du sien, et parfois jusqu'à épuisement, jusqu'à un burn-out, tant il est vrai, les exigences des autres sont très importantes et la nécessité de les satisfaire pèse sur la névrose du sujet et à ce moment, il souffre.
Et on voit bien les deux côtés. Docteur Marie-Claude Gavard, on parle justement depuis le début de l'émission de la difficulté de dire non, mais il y a aussi toutes celles et ceux qui sont sans arrêt en demande, on le voit là au niveau de la communauté, qui viennent demander de l'argent, un service, une relation, un emploi, on va dire, qui abusent des autres. Eux aussi peuvent changer, eux aussi peuvent s'améliorer.
Ah oui,
et voilà, mais...
Pardon.
C'est ça.
Marie-Claude, docteur Gavard, à vous.
Et ils vont s'améliorer d'autant plus qu'ils seront confrontés au non, et un non non agressif en disant, écoute, il faut absolument que tu te débrouilles. Comme ça, il y aura un apprentissage de leur part aussi. Et de plus, narcissiquement, ça veut dire qu'on les juge capables de se débrouiller.
Alors, vous avez parlé, docteur Félicienne Tonnet, des aînés, mais il y a aussi une forme de difficulté à dire non dans certaines cultures, dans certaines sociétés, tant en termes de genre, dans les relations hommes-femmes.
Oui, bien sûr. Bien sûr que l'affectif est au cœur du sujet. C'est ces éléments qu'on acquiert très tôt en se développant. Lorsqu'on devient adulte, c'est eux qu'on met en jeu dans les interactions, dans les relations interpersonnelles. Et on se rend bien compte que dans le genre, il y en a qui pensent que en disant non, ils vont contrarier la relation et ils risquent de perdre l'objet d'amour. À ce moment, le oui n'est pas un oui pour accepter, mais c'est un oui pour préserver quelque chose qu'on risque de perdre, tant il est vrai. Parfois, chez certains patients, la séparation, la rupture a paru une menace tellement forte que pour éviter cette rupture, on dit oui jusqu'à ce qu'on soit débordé par le oui.
Merci beaucoup, docteur Félicienne Tonnet. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre et vous enseignez la psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Docteur Marie-Claude Gavard, on arrive à la dernière partie de cet échange. Aujourd'hui, oser dire non. En conclusion, on va écouter ce dernier message. C'est celui de Gérard du Bénin. On l'écoute.
Bonjour Caroline. Je dirais d'abord ceci d'entrée de jeu. Je suis quelqu'un qui aime la franchise et qui est honnête. Et qui dit honnête, je suis honnête envers moi. Et quand on est honnête envers soi, tu peux être honnête envers ton partenaire. Ceci dit, si j'ai un ami, si j'ai un frère, bon, peu importe la personnalité, et que tu me demandes un service, si au fond du cœur, je sais que je ne pourrai pas te rendre ce service, je te dirai non. Parce que en retour, j'aimerais aussi qu'on me fasse la même chose que de me donner espoir et qu'on ne le fait pas. Ça fait énormément mal quand quelqu'un te promet quelque chose et qu'il ne le fasse pas. Je sais qu'en général, les gens n'aiment pas la vérité. Donc, c'est ce qui pousse souvent les autres à dire oui par rapport à ceux qui ne peuvent pas faire. Bon, moi, je suis déjà... J'aime le dire. J'aime dire la vérité. Et puis, bon, voilà, c'est ça, quoi.
Gérard, sur un plan moral, docteur Marie-Claude Gavard, savoir dire non, est-ce que c'est aussi à vos yeux une preuve d'honnêteté où on n'est pas vraiment dans ce registre?
Ah si, tout à fait. Parce que là, ce qu'explique Gérard, c'est que dire qu'on va pouvoir faire une chose sans pouvoir la faire et le savoir déjà, c'est augmenter la détresse de l'autre qui va attendre et qui ne va pas trouver de solution, qui ne va pas en chercher une autre parce qu'on lui a menti en fait. Donc, il y a une histoire d'honnêteté, mais effectivement, le plus souvent, les personnes qui n'arrivent pas à dire non, ce n'est pas du tout au niveau de l'honnêteté, c'est au niveau d'une peur de rejet, d'une peur d'être banni du groupe, de la famille, ou de perdre son conjoint. Donc là, dans ce que dit Gérard, effectivement, on peut comprendre que si on ne peut pas aider, il vaut mieux le dire tout de suite, plutôt que de retarder et de compliquer la situation de la personne qui est venue demander.
On a perçu pleinement au cours de cette émission l'influence de l'éducation. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, docteur Marie-Claude Gavard, qu'il y a une forme de conditionnement et que donc il faut désapprendre certaines choses et avoir une forme de rééducation, réapprendre à dire non.
Ah, tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est un conditionnement éducatif et lorsque l'on s'en rend compte, ce sont des petits exercices au quotidien après la prise de conscience qui nous permettent de changer et de voir qu'un vrai oui sera très apprécié par l'environnement et un non sera trouvé tout à fait juste.
Alors, petit conseil pour s'entraîner, vous diriez quoi, Marie-Claude Gavard ? D'autres manières de dire non, peut-être ?
Alors, oui, parce que le non, quelquefois, est beaucoup trop frontal. Si on dit « Ah, j'aurais bien aimé, mais tu vois, là, je ne peux pas et j'en suis désolée », moi, je donne un petit conseil. Lorsque on reçoit un coup de fil et quelqu'un dit « Que fais-tu ce week-end ?» Moi, je conseille de dire « Pourquoi ?» Parce que souvent, c'est pour un déménagement, c'est pour quelque chose de très casse-pied. À ce moment-là, si la personne n'est pas du tout disponible, n'a pas envie, elle peut dire « Écoute, je suis navrée, je ne suis pas disponible ». Et souvent, la personne qui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Là, il ne faut pas rentrer dans la justification. Il faut dire quelque chose comme « Oh, mille choses, écoute, je ne vais même pas te le dire tellement j'ai de choses à faire. » C'est-à-dire, là, on se respecte. En général, on fait ça avec des personnes qui sont toujours en train de demander. Comme ça, on se respecte soi-même et on se laisse l'opportunité de dire oui si on a envie et si on peut.
Et on peut dire qu'après tout ça, quand même, on est soulagé, non ?
Ah, on est soulagé. Et puis, la communication à l'autre est beaucoup plus honnête et beaucoup plus saine. Il n'y a pas de soumission. Parce que la soumission stimule le côté un peu sadique que la personne en face peut avoir. Et si on se soumet, on va être appelé à se soumettre encore et encore.
En tout cas, tous nos auditeurs, la prochaine fois, quand on nous demandera « Qu'est-ce que tu fais ce week-end » et qui répondront « Pourquoi ?», ils sauront que cette question, elle vient de vous, docteur Marie-Claude Gavard. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute à Paris. Merci. Et on rappelle bien sûr cet ouvrage très fourni, très dense. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête aux éditions Marabout ?
Priorité Santé sur RFI.
Et nous avions évoqué dans Priorité Santé il y a quelques semaines le coup d'envoi de l'appel à projet avec le professeur François Dabis, directeur de l'ANRS, appel à projet Covid-19 Sud, lancé par l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Projet Flash, 92 candidats, 32 lauréats qui couvrent toutes les disciplines, sciences fondamentales, recherche clinique, sciences de l'homme et société, épidémiologie, santé publique. Aujourd'hui, on part pour le Burkina Faso rejoindre l'une des lauréates. C'est vous, Blandine Bila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue à l'Institut de recherche en sciences de la santé de Ouagadougou. Alors, bien sûr, on parle de ce projet qui a été sélectionné par l'ANRS. Votre projet, Blandine Bila, sur quoi travaillez-vous ?
Et merci, Caroline, pour l'opportunité qui m'est donnée de présenter un peu plus notre projet. Et permettez-moi de faire un petit clin d'œil au professeur Alice Desclos de l'IRD à Dakar et au docteur Koudiasso du Centre de recherche et de formation de l'hôpital de Fan à Dakar, qui sont en fait les coordonnatrices de ce projet. Moi étant chargée, je suis investie à la tête de l'équipe du Burkina Faso. Notre projet de recherche est intitulé « Mobilisation communautaire et enjeux socio-sanitaires face au Covid-19 au Burkina Faso et au Sénégal ». Ce projet apparaît particulièrement pertinent quand on voit les multiples difficultés de communication des équipes de prise en charge dans les deux pays, que ce soit au niveau du comité des opérations de réponse aux urgences sanitaires du Burkina Faso, CORUS, ou au niveau du même comité qui s'appelle COUS au Sénégal, on voit que la presse et les réseaux sociaux ont largement relayé depuis le début de l'épidémie des récriminations incessantes des malades et de leurs familles. Le confinement et les hospitalisations étant considérés comme des séquestrations dans les formations sanitaires pour laisser mourir les malades. La maltraitance est également ressortie parce que les malades n'ont pas l'assistance. Du fait des conditions spécifiques du Covid, les malades ne peuvent pas avoir l'assistance de leur famille.
Isolement de la famille, y compris pour manger, etc. Voilà.
Voilà. Et la déshumanisation aussi des malades qui meurent seuls. Donc, tout ça, ce sont un ensemble de récriminations et qui amène la conséquence et la perte de crédibilité de ces équipes, la remise en cause et la qualité de la qualité des traitements, la résistance des populations aux mesures barrières, couvre-feu, qui n'est pas respectée. Pour ce qui est du Burkina Faso, au Sénégal, c'est un peu plus respecté, mais au Burkina Faso, actuellement, le couvre-feu est à 21h, mais vous sortez à 21h, 22h, vous voyez encore des gens dans la rue.
Blandine Bila, pour tout ça, vous vous êtes appuyée sur d'autres expériences préalables. Dans Priorité Santé, on parle bien sûr souvent de la riposte à Ebola, riposte au VIH. Vous avez pu vous appuyer sur les mêmes ressources, sur les mêmes leviers ?
Oui, effectivement. Dans le cadre de cette étude, nous avons jeté un regard en arrière sur les associations de lutte contre le VIH et comment elles procédaient dans le temps. Et on a constaté que ici, les équipes COVID offrent une prise en charge clinique avec des aspects psychiatriques. C'est-à-dire que le malade, systématiquement dans l'équipe, il y a un psychologue. Pour compenser ses besoins de parler et tout. Mais il se trouve que le psychologue, il n'agit pas, c'est-à-dire son domaine d'action est réducteur par rapport à ce que les communautés offraient dans le cas de la prise en charge de l'infection à VIH, dans le cas de la prise en charge globale, qui prenait en compte la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique pour ceux qui en avaient besoin et qui développaient des difficultés psychologiques, mais aussi pour tout le monde, une prise en charge psychosociale qui était faite de rencontres avec les entre malades, de rencontres avec les conseillers qui sont en fait des malades experts. Et tout ça avait constitué une expertise au niveau de ces communautés-là. Et
ça veut dire ne pas simplement parler à des médecins, mais c'est aussi parler à des gens qui ressemblent finalement aux gens du village.
Exactement, voilà. Ne pas seulement parler à des cliniciens, parce que les médecins sont des cliniciens, les psychologues aussi, mais parler à des gens comme nous, qui sont, comme vous l'avez dit, de la communauté et qui ont une certaine expérience de la maladie. Ça, je pense que ça manque, et c'est ça qui peut expliquer, qui va largement expliquer ce déficit de communication.
Gardez le lien, c'est toujours essentiel. On vous remercie infiniment et bonne continuation pour votre projet et votre équipe à Ouagadougou. On l'a compris également au Sénégal, en partenariat avec également des experts du pays voisin. On vous souhaite une excellente journée, Blandine Bila, au Burkina Faso. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. Aujourd'hui, c'est Toussa Maké, Ophélie Lassène, Juliette Bro, Didier Bleu et Raphaël Lazizi en studio. Demain, dans Priorité Santé, nous allons parler des addictions, drogue, alcool, tabac, situation de dépendance pendant la crise sanitaire, prise en charge particulière. Est-ce que la situation qu'on a connue ces dernières semaines a favorisé les risques d'addiction ? On en parle demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.